Ok, ça enregistre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Mémo. Mémo, c'est un format en solo, donc pas d'invité, pas de format consulting. Tout ce qu'on va se raconter, ça se passe entre vous et moi. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler de TJM, de taux journalier moyen, donc globalement ce que vous facturez en freelance pour une journée de prestation. On va parler de tarifs, comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses tarifs, est-ce que le TJM... c'est le seul et unique moyen eh bien, de facturer en freelance. Et puis, on va voir tout ça avec différentes stratégies, différentes méthodologies de pricing. Et surtout, bah, l'idée, c'est que je vous partage, comme d'hab, mon expérience. Ça fait maintenant 7 ans que je facture en freelance. Bien sûr, je facture beaucoup moins aujourd'hui que ce que je facturais il y a quelques années. Mais il n'empêche que j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait aussi pas mal de petites erreurs, notamment au démarrage. Et donc, l'idée, c'est de vous partager mon retour d'expérience là-dessus aujourd'hui. Avant ça, petite intro pour celles et ceux qui me découvrent avec cet épisode-là. Je m'appelle Alexis Minkela, je suis le fondateur de Tribu Indé. Tribu Indé, c'est un écosystème de contenus, à la fois des contenus gratuits comme le podcast, mais aussi payants, parce qu'il faut bien gagner sa vie pour accompagner eh bien, tous les indépendants, les consultants et les prestataires de services à réduire eh bien, leur stress de ne pas trouver de nouvelles missions. Et tout ça, on le fait en travaillant sur 3 piliers. L'offre et le positionnement pour que ça soit le plus carré possible, l'apprentissage de la vente pour eh bien, facturer plus cher, et puis une organisation au service de sa croissance et de son développement à la fois personnel et professionnel. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez toutes les infos sur tribuindé.com. Il y a un lien normalement dans la description si les choses sont très bien faites. Voilà pour cette petite introduction. Je sais pas, pour celles et ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, j'ai l'impression que je suis en train de bien me roder sur l'introduction. Là où c'était peut-être un peu plus bancal avant. C'est toujours plus difficile, alors que ça fait des années que je bosse sur Tribu Indé, d'avoir quelque chose de clair, synthétique pour quelqu'un qui me découvre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses autour de Tribu Indé. Donc, sinon, moi, je suis très content de vous retrouver sur ce format-là. Donc, on est le mercredi 6 mars. Normalement, l'épisode sort le 7 mars. Vous voyez, vraiment, on est en flux tendu, mais tout le temps, quoi. Le fait d'être passé à un épisode par semaine, en vrai, ça me met dans un rush. Si j'avais que ça, ça serait OK, mais malheureusement, j'ai pas que ça. Et surtout, on enregistre dans une chambre d'hôtel. Alors normalement, je ne suis pas dans mon setup habituel, mais j'ai quand même fait l'effort de ramener mon micro. Donc je suis dans une chambre d'hôtel à Paris et normalement, l'insonorisation est plutôt bonne. Donc vous me direz, ce sera plutôt à Nicolas de me dire si c'était catastrophique ou pas. Et pourquoi est-ce que je suis à Paris? Parce que hier soir, j'ai été invité par Samuel Durand qui est un ami et qui est aussi un excellent créateur de contenu qui crée notamment, lui il a une particularité, c'est qu'il se focalise sur le futur du travail, notamment avec la création chaque année d'un documentaire, à chaque fois exceptionnel. Je vous révèle un peu en exclu le prochain docu, si vous n'êtes pas au courant, eh bien, il va parler de l'IA. Bien sûr, ce n'est pas lié au freelancing à 100%, mais plus à l'état du travail dans le monde de manière générale. Et donc hier, il organisait ce qu'il appelle une WIP Night, une Work in Progress Night. C'était au MK2 à Bibliothèque François Mitterrand. Et il y avait à peu près entre 500 et 600 personnes. Donc c'était très cool, en mode c'était dans une salle de ciné, enfin les grandes salles de ciné au MK2. Et donc j'ai été invité pour, il y avait plusieurs séquences, il y avait des analyses de rap, il y avait des petits quiz, etc. Et donc moi j'étais invité par Samuel avec Catherine Barba pour parler bien évidemment, à votre avis, de freelancing. Donc c'était cool, c'était très très sympa. C'était aussi d'ailleurs l'occasion, dans la salle il y avait certaines lectrices et auditeurs auditrices du podcast. Donc je vous fais un petit coucou si vous écoutez le podcast juste après avoir été à cette soirée-là. C'était très sympa d'en rencontrer certains d'entre vous. Ouais, c'est toujours un moment marrant parce que bah, forcément vous me connaissez beaucoup plus que moi je vous connais. Même si pour certains on avait déjà échangé par mail, en message privé, etc. Bah, c'est toujours cool, toujours chouette de mettre des visages sur des noms que je vois parfois passer ou des commentaires que je vois passer. Donc c'était très cool, c'est toujours marrant de se voir en vrai. D'ailleurs, merci aussi pour vos retours sur le dernier épisode du podcast. J'en profite. On est sur un retour 100% féminin cette semaine. C'est un choix délibéré de ma part. On a Christelle qui nous a fait un retour sur les épisodes mix qu'on a sortis. Donc effectivement, j'avais commencé l'année avec des épisodes mémo. On a fait un peu d'épisodes consulting où je prends une problématique d'un auditeur qui passe sur le podcast en direct et puis on traite cette problématique-là. Et puis sur les 2 dernières semaines, on a testé un autre format qui est un format un peu mix and match, quoi. C'est de se dire, je mixe des anciens épisodes de podcast où, bien évidemment, on ne va pas faire 4 heures d'épisodes de podcast, mais où je vais chercher les pépites des meilleurs épisodes sur lesquels j'ai envie de revenir. Et en fait, j'y mets, comme d'hab, ma petite voix off, mon petit grain de sel. Et ça a beaucoup plu, donc ça, c'est cool. Je pense qu'on va le réitérer. Mais là, j'avais envie de vous faire un petit épisode mémo, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi, pour un nouvel épisode. J'avais pas mal de trucs à dire. Et je vous avoue que la soirée d'hier, puisque j'ai parlé de freelancing et surtout de TJM et de prix, je me suis dit que tant qu'à faire, autant faire un petit épisode à ce sujet, parce que j'ai toujours, comme d'hab, plein de trucs à dire. Mais Christelle, du coup, nous a fait un petit retour sur les épisodes précédents du podcast, qui nous disait, en tout cas, merci pour tes podcasts et ta newsletter, c'est du contenu de qualité et ton contenu met en avant des actions concrètes à mettre en place dans mon quotidien d'indépendant, bravo. On a Alexia aussi qui me dit, j'ai écouté le podcast numéro 85 et bravo Alexis pour tout ce travail de compilation des meilleurs moments, des pépites de tes podcasts, ça permet de croiser des regards différents, c'est beaucoup plus efficace qu'un replay. C'est une manière de recycler tout le contenu produit, mais très intelligemment et de manière pertinente, et parfois de croiser des thématiques de podcasts qui peuvent être complémentaires. Et elle termine son message très sympa par « Merci pour ce boulot, je trouve que tu as une capacité de réinvention remarquable. Bonne journée et bonne continuation. » Voilà, c'est hyper sympa, merci à toi Alexia. Et puis on a Alissa qui me dit « J'ai découvert ton podcast il y a un mois, donc une nouvelle auditrice, bienvenue à toi Alissa. Et je voulais simplement te dire félicitations, je le trouve génial, hyper pertinent, ça fait du bien d'entendre des freelances avoir les mêmes problématiques que soi et de voir comment chacun les aborde de manière plus ou moins différente, continue. » Eh bien, merci à toi, Alissa. Et n'oubliez pas, si ça fait un moment que vous écoutez le podcast ou, comme Alissa, c'est très récent, eh bien, pensez à me faire un petit retour, que ce soit en privé, en public, si vous avez envie de le partager en story, peu importe, et de le noter, notamment sur Spotify. Sur Spotify, vous cliquez sur Tribu Indé et puis vous remontez tout en haut de la page sur votre téléphone et normalement, vous pouvez le noter. Voilà, et encore mieux, n'hésitez pas à partager votre épisode préféré à une personne sur WhatsApp. Vous allez me dire, ouais, mais attends, je le partage à une personne, ça va rien changer. Vous êtes des milliers à écouter le podcast. Imaginez si chacun d'entre vous le partage à une personne. Bah, en fait, on fait x2 tous les mois et ce serait génial, n'est-ce pas? Donc voilà, merci beaucoup. Je regarde l'heure, il est 10h30. J'ai littéralement une heure pile avant de me faire dégager de ma chambre. Donc là, je ne pourrais pas trop traîner. Peut-être qu'on fera un épisode, peut-être que cet épisode de prix sera peut-être une intro. Ça ne veut pas dire que je vais vous laisser avec très peu d'infos. Bien évidemment, vous commencez à me connaître. On va délivrer de la valeur, les amis. On va délivrer le plus possible, mais peut-être que j'aurai pas le temps de tout aborder, donc peut-être qu'on fera une partie 2. Encore une fois, ça dépendra de vos commentaires. Et j'insiste, tous les auditeurs et auditrices silencieux, c'est 99% des personnes qui écoutent le podcast, bah c'est le moment de me faire un petit retour si vous avez envie d'une partie 2. Comme d'hab, deux parties aujourd'hui. On va parler un peu de coulisses, parce que j'ai quelques trucs à vous annoncer et j'ai une exclue. J'ai une exclue, les amis, à vous annoncer. Vous êtes les seuls et vous serez les seuls pendant encore un petit moment avant l'information, avant que j'en parle publiquement. Donc voilà, c'est mon petit cadeau à moi. Et puis ensuite, eh bien, on parlera du mémo de la semaine qui traite de TJM et de tarifs. Oui, donc j'ai plusieurs trucs à vous dire sur la partie coulisses. La première info que je trouve cool, eh bien, c'est que je viens de signer officiellement un contrat pour adapter mon livre en version audio. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, normalement, j'ai bien fait mon travail de marketing depuis 2021. Mais en gros, début 2021, j'ai sorti mon livre chez Erol qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros ». Je trouve qu'il porte bien son nom. Je suis assez fier du titre. Je sais pas, si j'ai fait un épisode dessus, je pense que ça va être autour des épisodes 50 sur... toutes les stratégies marketing que j'utilisais pour promouvoir le livre et pour tester, notamment j'ai testé beaucoup le titre du livre. Je m'étais inspiré de ce qu'avait fait Tim Ferriss pour la semaine de 4 heures. Et en fait, j'ai testé le titre de mon livre. Je l'ai testé en fait avec de la publicité pour voir qu'est-ce qui faisait le plus cliquer, etc. Et après négociation avec Erol, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, c'est inspiré d'un titre qui s'appelle Le livre dont vous êtes le héros, qui est une série de livres que j'adore, qui est d'ailleurs est édité par Gallimard. Et il se trouve que eh bien, Gallimard est au conseil d'administration de Erol, donc c'est comme ça qu'on a réussi à négocier et à choper un peu un titre plus ou moins similaire à celui qui existait, sans se faire eh bien, retoquer. Donc voilà. Bref, j'ai sorti mon livre, je divague, c'est terrible, je commence déjà à divaguer. Donc, j'ai sorti mon livre début 2021, c'est aujourd'hui un best-seller, donc c'est très cool. Best-seller dans le monde du business, bien évidemment. On n'est pas encore à 100 000 exemplaires vendus. Mais le livre continue de très très bien se vendre, on continue de m'en parler. Encore hier, je signais un exemplaire du livre, donc c'est cool. Alors que trois ans plus tard, eh bien, il continue de se vendre. Donc ça, c'est très 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 cool. Et eh bien, une petite boîte de production à Bordeaux a racheté les droits du livre pour l'adapter en version audio. Et ce qui est très cool, c'est qu'ils m'ont proposé eh bien, de poser ma propre voix sur mon propre livre. Alors vous allez me dire, ça fait un peu ego trip, mais je pense que d'un point de vue marketing, c'est intéressant et c'est comme ça aussi que moi j'ai essayé de le vendre parce que ça me faisait kiffer de le faire. Parce que bah, vous êtes beaucoup à écouter le podcast. Je ne suis pas sûr que toutes les personnes qui écoutent le podcast aient un jour écouté le livre. Et donc là, vous pourrez entendre ma douce voix en train de lire mon livre. Et donc, c'est très cool. Pour l'instant, j'ai eu un rendez-vous avec la directrice artistique de cette boîte-là, qui va ensuite, bien évidemment, le diffuser un peu partout, et notamment sur Audible, qui est la grosse plateforme aujourd'hui qui appartient à Amazon et qui, c'est là où se fait 90% des ventes des livres audio. Mais du coup, j'ai eu un premier rendez-vous, enfin plusieurs rendez-vous, et dont un sur le dernier que j'ai fait sur comment est-ce qu'il faut que je pose ma voix. Donc, on a commencé un peu à lire mon livre, elle m'a fait des retours, les temps de silence, le souffle, etc. Et d'ailleurs, c'était trop marrant de commencer à relire mon livre. Donc, on a commencé par l'avant-propos, etc. Et moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas relu mon livre en intégralité, quoi. Je connais bien les sujets, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas relu mon livre. Et du coup, il y a eu un petit effet nostalgique. Et je suis vraiment très très content de le faire. Ça va être un chouette projet. Je vais essayer de vous le documenter, de vous expliquer comment ça se passe. Je vais voir si je peux vous partager les chiffres et tout. D'un point de vue prix, honnêtement, je gagne pas beaucoup d'argent avec, mais c'est plus l'expérience. Je vais du coup enregistrer en studio, en mode comme un studio de musique, etc. Peut-être que je poserai un petit son vite fait si j'ai le temps. Mais en tout cas, ouais, ça va être cool. Je vais essayer de faire des photos et tout et de documenter tout ça parce que je pense que ça peut être chouette. Et ça arrive pas non plus. Je me dis, dans ma carrière, ça ne m'arrivera pas non plus 50 000 fois. Quoi. Donc, c'est chouette. Voilà un petit peu le projet. Et j'espère que ça sortira d'ici quelques mois. Pour être honnête, j'enregistre mi-mars mon livre. Ça dure 2 jours et demi. Donc c'est assez prenant. Il va falloir être serein sur 2 jours et demi pour lire tout un bouquin. D'autant plus que c'est le sien. Mais du coup, je pense qu'après, avec le travail et autres, je pense que ça va aller assez vite parce qu'il y a moins de travail marketing à faire comme moi j'ai pu le faire puisque tous les assets sont déjà là. Donc ça va être vachement intéressant. Voilà pour cette première info. Deuxième info, je voulais revenir, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu peut-être passer cette story-là, mais j'ai une personne qui s'appelle Laetitia qui m'a fait un super retour. Alors, il se trouve qu'elle est aussi cliente d'un des programmes de formation qui s'appelle Le Réacteur, qui est focalisé sur la vente de prestations de services. Comment est-ce que je me repositionne? Comment est-ce que je génère des opportunités? Comment je transforme ces opportunités-là en mission client? Et donc, on voit tout le cycle de vente de prestations de services. Et donc, elle m'a fait un retour que je vous lis parce que je trouve chouette et après, j'ai envie de le commenter. Je me suis fait une réflexion l'autre jour, mais si Tribuandé n'existait pas, eh bien je me demande ce que j'aurais trouvé comme solution pour mon business. Perso, je vois pas du tout. J'ai vu tout ce que tu avais ajouté comme bonus au réacteur, c'est de la folie. Je sais pas si tu te rends compte de la valeur que ça a, tout ce que tu nous as transmis. Merci, merci, merci. Déjà, je trouve ça génial. Je vous partage pas assez. Je pense que je vous partage. En fait, je partage pas assez les dizaines et dizaines de retours que je reçois littéralement chaque semaine, que ce soit sur les différents programmes de formation, les différents contenus que je peux faire sur LinkedIn, sur Instagram, sur le podcast. Mais vraiment, c'est ouf, quoi. Honnêtement, c'est ce qui me fait tenir d'un point de vue création de contenu gratuit parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Parfois, on se dit, mais est-ce que on est toujours en plein doute, est-ce que c'est vraiment intéressant ce que j'ai à dire, est-ce que ça aide vraiment les gens, etc. Et en fait, le fait d'avoir ce retour-là, ça valide que je suis encore sur le bon chemin. Moi, je vous l'ai dit, je suis là pour dans les 10 prochaines années, donc vous risquez de continuer de voir ma tête si vous êtes OK de continuer de voir ma tête et ma voix. Mais du coup, c'est toujours cool d'avoir ce genre de choses. Et ce qui est fou, c'est qu'un retour comme ça, notamment, il se trouve qu'elle parlait notamment du réacteur, mais pas que. En fait, moi, je trouve ça à la fois génial et en même temps, je trouve ça triste parce que l'énergie et l'intensité que je mets à la fois dans mes produits, dans mes contenus, pour moi, ça devrait être la norme partout, quoi. On devrait se forcer, et je parle nous en tant que créateurs, je parle pas forcément en tant qu'auditeur, mais en tant que créateur. Enfin, je veux dire, comment c'est possible de créer encore des contenus complètement vides de sens, des coquilles vides, etc. Ce qui est fou, c'est que c'est toujours pas le cas, alors qu'on a l'impression que le marché il est hyper concurrentiel, etc. J'ai l'impression que moi, d'un point de vue approche business sur la prestation de service, franchement, on n'est pas nombreux à pousser le truc assez loin. Et je pense que je suis capable de le pousser aussi loin parce qu'en fait, j'ai de l'expérience derrière. Et donc ça, pour le coup, on ne pourra jamais me le retirer, on ne pourra jamais me le voler. Et en fait, l'avantage compétitif, il est là-dessus, quoi. Et l'avantage concurrentiel, il est là-dessus. Donc je sais qu'il faut que je garde ça en tête et que je continue d'être hyper pragmatique et d'être hyper concret, de ne pas trop céder aux trucs un peu faciles, les petits hacks, aller parler de sujets que je maîtrise moins sur full tune, machin, alors qu'en fait, ce n'est pas des trucs que j'ai moi-même expérimenté, quoi. Mais en tout cas, ce message de Laetitia m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que aujourd'hui, l'ambition, elle est affichée et je vais encore plus communiquer là-dessus. Alors, elle est affichée, elle est surtout assumée, je pense. C'est plutôt le bon terme, c'est plutôt assumée qu'affichée, mais c'est moi vraiment l'objectif en 2024 et c'est là où j'ai vraiment les crocs et c'est aussi pour ça que j'ai relancé le podcast, que je me remets vraiment dans un mood de créateur. On a lancé la promotion 5 du bootcamp, on a le réacteur qui tourne super bien, etc. Moi, mon objectif vraiment assumé, c'est de rendre obsolètes tous les programmes business pour les freelances. Donc, je ne parle pas des programmes liés à des compétences, ou liés à, il y a plein de programmes qui sont complémentaires à ce que je fais, mais vraiment les programmes qui sont en frontal par rapport à ce que je peux proposer, qui peuvent être des alternatives, vraiment, mon objectif, c'est de les rendre obsolètes. Et ce n'est pas prétentieux de dire ça, c'est vraiment un objectif. Pourquoi ? Parce que, selon moi, aujourd'hui, sur le spectre, on a d'un côté des trucs qui sont très, très tournés vers le cash, le travail acharné, donc cash, hack ultime, opportunité, il faut aller vite, machin, etc., qui sont d'ailleurs des sujets qui sont souvent portés par des hommes et qui sont souvent incarnés par des hommes. Est-ce qu'il y a un hasard ? Je ne suis pas forcément sûr. Et de l'autre côté du spectre, à l'opposé, on a des trucs qui sont, selon moi, encore une fois, qui sont beaucoup trop tournés sur le développement personnel et donc qui sont beaucoup trop centrés sur la personne que je suis en tant qu'indépendant, en tant que freelance. C'est genre connecte-toi à toi, laisse venir les gens à toi, ne les brusque pas, trouve ta flamme intérieure, machin, etc. Et ça, selon moi, ça ne rend pas non plus service. Là où les trucs sur le cash, en fait, Matrix, c'est un maximum de gens qui ont l'impression d'être nuls parce qu'ils ne facturent pas assez ou parce qu'ils ne sont pas assez bons, parce qu'ils ne font pas assez vite, etc. Alors qu'en fait, tout prend du temps et c'est normal. Mais de l'autre, le dev perso poussé à l'extrême de « en fait, brusque pas, prends ton temps, pars d'abord de toi, de tes envies, de tes convictions », en vrai, ça ne rend pas service parce que ce n'est pas la réalité. En tout cas, quand on creuse un peu les personnes qui incarnent ça, ce n'est pas des personnes qui ont eu beaucoup d'expérience sur la prestation de service. Et donc moi, j'essaye, à mon échelle bien sûr, mais d'être au milieu de tout ça et d'être au milieu pour des personnes qui ne se retrouvent pas forcément dans ces deux mondes. Et pour certains d'entre vous, ça paraît très caricatural ce que je dis, mais pour être dans le marché depuis un certain moment, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Le spectre, il est vraiment... la longueur de spectre, elle est celle-ci. Il y a plein de trucs au milieu, mais la longueur de spectre, elle est celle-ci. Et donc moi, j'essaie de me dire, comment est-ce que je prends le meilleur des deux mondes, quoi. Comment est-ce que je peux parler d'intention, de vision, etc., des choses qui sont un peu plus personnelles, et comment est-ce que je peux parler de choses très pragmatiques qui te permettent d'augmenter tes TGM, mais sans avoir des discours et des promesses qui sont complètement délirantes. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique, plutôt quelqu'un de posé, mais je reste quand même tourné vers les autres et le marché. La réalité, c'est que la réponse, elle ne se trouve pas en vous, elle se trouve dans le marché et chez vos clients. Et ça, c'est un fait sur lequel je ne démordrai jamais. Voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire que c'est un peu plus assumé aujourd'hui de vraiment rendre obsolète, et c'est carrément mon fuel. Et c'est pour ça que ça me donne envie de tester plein de nouvelles choses, de continuer à avancer sur la partie pédagogique de tous les programmes que je fais. Et d'ailleurs, on prépare tout doucement la réouverture du réacteur d'ici, je pense, un petit mois. Donc je sais que certains sont déjà, je crois que vous êtes 200 ou 300 déjà à être sur la liste d'attente alors qu'on n'en a pas du tout parlé, donc ça c'est très très cool, on va voir ce que ça donne. Mais ça arrive d'ici un petit mois. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la partie coulisses. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur le mémo de la semaine. Donc, le mémo de la semaine, on va parler tarifs, TGM et méthode de pricing. Et comment est-ce que j'ai trouvé ce sujet-là ? Eh bien, je vous avoue que la conférence d'hier... Eh bien, m'a inspiré le sujet. Donc, avant qu'on démarre, un peu de contexte à garder en tête, avant qu'on attaque vraiment dans le concret, j'ai deux choses à vous dire sur la partie prix. Première chose, votre stratégie de prix, c'est-à-dire vous partez d'un prix X et donc vous vous questionnez sur comment est-ce que je fais pour augmenter ça, pour retravailler mes prix, etc. Donc, votre stratégie de prix, elle ne peut être efficace à travailler que si vous êtes au clair sur ce que vous proposez d'un point de vue prestation de service, sur quel marché vous positionnez, c'est-à-dire quels sont vos clients cibles, face à quelle alternative vous êtes confronté en négociation client, quels sont les résultats et les bénéfices que vous apportez grâce à votre prestation de service, et surtout, quelle est la méthodologie qui vous permet d'aller chercher tel et tel résultat. J'insiste là-dessus, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas au clair sur ce que vous proposez, le marché sur lequel vous êtes, les alternatives qui existent, les résultats et les bénéfices que vous proposez et la méthodologie que vous proposez à votre client, vous n'allez pas pouvoir travailler plus que ça à votre prix parce que au moindre challenge de vos clients, ça va bégayer. Donc ça, c'est mon premier point. Soyez au clair, et c'est pour ça que être au clair sur toutes ces offres, etc., c'est un truc qui prend du temps. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est faites mieux mais moins, c'est-à-dire proposer une seule offre que vous vendez à plus de clients plutôt que de proposer 50 000 offres sur lesquelles vous êtes un peu bancal, le discours commercial, vous ne l'avez pas forcément, etc. Parce qu'avec une seule offre, vous êtes largement capable d'aller chercher plusieurs dizaines de milliers d'euros facilement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, il faut absolument que vous le gardiez en tête, c'est extrêmement important et ça conditionne tout ce que je vais vous dire après, c'est que le prix juste n'existe pas. Le prix juste n'existe pas. Le prix juste, c'est celui pour lequel vous êtes à l'aise de facturer, mais aussi celui pour lequel l'entreprise y trouve également son compte d'un point de vue budget. Donc ça veut dire quoi? Une fois que je vous ai dit ça, en fait le prix c'est un truc qui est très arbitraire. Arbitraire par nature et qui dépend de plein de paramètres, dont le marché, quelle est la capacité d'achat des entreprises pour lesquelles vous travaillez. Si vous faites des sites internet et que vous vendez à des indépendants, les indépendants n'ont pas la même capacité d'achat que si vous vendez à une PME qui a besoin de refaire son site internet qui est vieux depuis 10 ans. Et qui est une PME avec 30 ou 40 salariés dans un domaine industriel sur lequel il y a des marges qui sont conséquentes et qui est prête à mettre 5 ou 10 000 euros dans un site internet. Là où vous allez voir un indépendant qui fait moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires, jamais de la vie, cette personne-là mettra même 5 000 euros dans un site internet. Pourtant, vous vendez la même prestation. Donc, c'est arbitraire par rapport au marché et sa capacité d'achat. C'est arbitraire aussi par rapport à la maturité des entreprises sur vos compétences. Est-ce qu'elles savent concrètement ce qu'implique votre travail ou pas. Plus une entreprise comprend votre métier, comprend les enjeux de votre métier, plus elle valorise votre expertise et donc elle est capable et elle est à même de payer plus cher que prévu. Et puis c'est aussi arbitraire en fonction des problématiques que vous résolvez. Plus la problématique que vous résolvez est critique chez votre client, plus bien évidemment ça coûte cher. Donc gardez aussi en tête, le marché va pouvoir vous donner des pistes et des tendances, c'est-à-dire, mon voisin facture, 300 euros le TGM, ma voisine de droite qui a 3 ans d'expérience facture elle 500 euros, ok, c'est cool. Donc, on va voir un peu comment est-ce qu'on va travailler un peu sa méthodologie de pricing, mais on va parler de marché. Le marché vous donne des pistes et une tendance. Mais j'aime bien dire un truc qui sonne un peu bullshit, mais faites-moi confiance et essayez de la noter quelque part et d'y revenir. L'excellence se trouve en dehors des cases. L'excellence, elle est rare par nature, mais elle se paye cher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que votre marché a un prix moyen de X que vous n'êtes pas capable de facturer Y. En revanche, pour vous permettre de réussir à facturer Y, il va falloir être excellent, il va falloir être bien meilleur que la moyenne des personnes qui constituent votre marché et donc vos alternatives. C'est difficile, ça va être beaucoup plus rare aussi, mais du coup, vous allez pouvoir facturer beaucoup plus cher. Voilà pour les deux éléments de contexte. Donc, stratégie de prix, ça se travaille que si vous êtes au clair sur tout ce qu'on a vu, ce que vous proposez, le marché, les alternatives, les résultats, les bénéfices et votre méthodologie. Et surtout, le prix juste n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important à avoir en tête. Peut-être que je peux commencer par vous partager un peu moi mes évolutions tarifaires. Au moins, comme ça, c'est cash et au moins, vous êtes au courant un petit peu dans quoi est-ce que vous embarquez avec moi et où est-ce que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé fin 2016, début 2017 à commencer à facturer. Je facturais de la rédaction d'articles. J'étais encore étudiant. Voilà, contexte, vous voyez que contexte, j'avais des attentes tarifaires qui n'étaient pas forcément élevées parce que avec 100 euros, j'étais royal, quoi. Je pouvais me payer 2-3 soirées et c'est trop bien. Donc, par exemple, en 2017, je facturais un de mes premiers articles que j'ai facturé ça 54 euros. 54 euros pour à peu près 5 heures de travail. Je vous laisse faire le calcul, on était plus ou moins à 5 euros de l'heure. Non, on était plus ou moins à 10 euros de l'heure. Ensuite, on avance, 2019, donc là, je me lance vraiment à temps plein en freelance. Et donc là, je fais à peu près x10 sur mon tarif. Donc là, j'étais à peu près à entre 450 et 550 euros l'article. Donc c'est des articles longs qui étaient optimisés, etc. Mais globalement, je passe de 55 euros à 550. Ensuite, on arrive plutôt donc là 2021. 2021, je change de positionnement. Je reviens sur des choses que je faisais notamment quand j'étais salarié, où je vais plutôt sur des sujets de copywriting. Donc des sujets aussi qui sont avec des résultats et des bénéfices qui sont un peu plus démontrables, avec une méthodologie qui est plus cadrée pour moi, et surtout sur un marché sur lequel il y a un véritable besoin. Et en B2B, des copywriters qui sont bons, il n'y en avait pas tant que ça. Et il n'y en a toujours pas tant que ça. Et donc là, vous voyez, du copywriting de page de vente, je facturais ça entre 4000 et 6000 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais globalement, on est sur des tarifs qui sont beaucoup plus élevés et on revenait à peu près, ça revenait à, en temps passé, ça me revenait à peu près à 800 euros par jour. Donc, à peu près, on était à des tarifs qui étaient un peu plus élevés que précédemment. Et puis là, sur les dernières missions, si je prends des missions en 2023, on était plutôt, donc toujours sur la partie copywriting, on est aujourd'hui, moi, je facture à peu près ma journée entre 1200 et 1600 euros par jour. Bien évidemment, je ne facture plus du tout au TJM, donc ça veut dire que je ne facture plus du tout la journée. Là, je vous donne pour que vous puissiez vous rendre compte. Moi, je facture au livrable, ce qu'on appelle au forfait. Donc, je m'engage sur un résultat qui est je te livre tel document, telle méthodologie, tel process, etc. Donc, je ne m'engage pas sur un résultat bénéfice, mais je m'engage sur un résultat de livrable que je lui ai vendu, que j'ai vendu à mes clients. Donc voilà, parce que 1600 euros par jour à vendre comme ça, c'est compliqué. En revanche, quand vous vendez du livrable, vous décorrélez votre temps passé, donc plus vous êtes efficace. Peu importe si vous êtes efficace ou pas, en fait, le client ne sait pas nécessairement combien de temps vous passez sur la mission, et c'est très bien comme ça. Parce que votre client, en tout cas mes clients, achètent un résultat, que j'y passe 3 heures ou 10 heures, du moment qu'ils ont le résultat, ils sont OK de payer avec ça. Vous voyez que mes prix, on est passé globalement de 10 euros de l'heure en 2017 à, si je reprends mon 1600 euros par jour, à 300 euros de l'heure sur une prestation de service. Donc je ne vous parle pas du coaching individuel que je peux faire, qui est facturé beaucoup plus cher aujourd'hui. Je vous parle vraiment de prestation de service. Là aussi, c'est intéressant. N'oubliez pas, toutes ces personnes sur LinkedIn qui vous parlent de « je facture X euros de l'heure », etc., on n'est pas sur la prestation de service. On est sur du coaching, on est sur du consulting à la carte. C'est encore différent. Donc, vous voyez, je suis passé 10 euros de l'heure à 300 euros de l'heure sur de la prestation de service. Il y a plein de paramètres qui font que ça a changé, mais globalement, je n'ai pas augmenté mes compétences de 300% ou de 30, enfin, je n'ai pas fait x30 sur mes compétences et ma crédibilité sur 5-6 ans de freelancing. Selon moi, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, le fait que j'ai quand même pris de l'expérience, j'ai quand même développé des compétences, j'ai quand même amélioré mon relationnel client, le marché a évolué, etc. Mais aussi, il y a deux choses que je trouve extrêmement importantes à noter. J'ai pris confiance en moi et j'ai quand même augmenté ma crédibilité. Et donc, j'ai fait savoir que j'étais bon dans ce que je faisais. Ma confiance en moi, c'est une légitimité interne. C'est-à-dire que je suis confiant dans ce que je suis capable de proposer, c'est pas le marché qui est en train de me dire ça, c'est moi qui m'auto-convainc de « ok, je sais que je suis la bonne personne, je sais ce que j'apporte fonctionne et je suis confiant dans le fait que je vais être capable de délivrer quoi qu'il en coûte pour moi et quel que soit le temps que je vais y passer. » Confiance en moi, légitimité interne. Crédibilité, légitimité externe. C'est pas à vous de dire si vous êtes crédible ou pas pour une mission. C'est le marché qui évalue votre crédibilité ou non à répondre à votre besoin avec tel et tel prix. Donc ça, c'est extrêmement important. Si vous ne développez pas votre confiance en vous, ça va être compliqué de faire x15 sur vos prix. Et si vous ne développez pas votre crédibilité externe, ça va être compliqué aussi d'avoir le niveau de confiance de vos clients pour accepter de vous payer 2 fois plus cher que votre voisin de droite, par exemple. Donc, votre méthode de pricing, elle doit prendre en compte, selon moi, 3 éléments. Le premier élément, c'est le coût de votre prestation. Ça paraît logique, mais globalement, c'est le temps que vous allez passer sur la mission. Est-ce que vous avez des coûts structurels mensuels qu'il va falloir digérer ? Est-ce que sur une mission A, vous avez besoin d'avoir des prestataires avec vous ? Puisque vous avez vendu peut-être un package dans lequel vous n'êtes pas la seule ou le seul à travailler sur cette mission-là. Je vous prends un exemple. Comme moi, je faisais de la copie, une particularité de cette mission-là, au-delà d'écrire des pages sur un site internet, d'écrire des séquences d'emails, etc., il y a tout un travail de positionnement à faire avant. Pour faire ce travail de positionnement-là, j'échangeais avec les clients de mes clients. Ce que je faisais, c'est que j'enregistrais ces entretiens-là et je les retranscrivais parce que c'était plus simple pour moi de travailler dessus. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui allais retranscrire et qui allais passer 3 heures à retranscrire 5 entretiens que j'ai faits. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais appel à des prestats qui s'occupaient de retranscrire. Je vous remets dans le contexte, il n'y avait pas encore toute la partie IA, etc., où la retranscription était facile à faire, on était obligé de payer des gens. J'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis ça, mais c'était vraiment le cas. Donc, bah, pareil, ça rend dans le coût de ma prestation globale. Okay, il faut que je les prenne en compte parce que bah, la presta diminue ce qui me reste sur mon compte bancaire, sur le compte bancaire de l'entreprise à la fin de la mission. Ça peut être aussi tous les outils que vous allez devoir utiliser. Est-ce que vous avez des outils spécifiques à utiliser sur vos missions? Donc, ça, c'est ce qui englobe et ce qui permet d'avoir un coût de votre prestation globale. Vous avez ensuite le prix facturé et son coût d'opportunité, c'est-à-dire la marge que vous allez pouvoir ajouter au coût de votre prestation. Et donc, moi, j'aime bien dire que c'est un peu votre trésor de guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce que aujourd'hui vous êtes en train d'accumuler le jour où il y a une baisse d'activité, vous décidez de partir 3 mois en vacances, vous avez envie de vous consacrer sur un projet personnel à côté qui vous oblige à ne pas facturer autant que vous aimeriez le faire et autant que vous pourriez le faire chaque mois. Et donc, ça, c'est ce trésor de guerre-là. L'idée, c'est que en cas de problème, bah, en fait, vous pouvez aller piocher et vous pouvez aller taper dans ce trésor de guerre-là sans être en situation de stress. Et enfin, le troisième ingrédient, eh bien, c'est la valeur que va générer votre prestation pour le client. Je vais revenir dessus, mais c'est extrêmement important. Donc, vous avez le coût de votre presta, le prix que vous allez facturer avec votre marge, et puis la valeur que va générer votre prestation pour le client. Et donc, pour définir un prix avec ces ingrédients-là, moi, j'aime bien démarrer en partant de 3 éléments. Le premier élément, c'est votre marché. Le deuxième élément, c'est votre structure de coût. Le troisième élément, c'est vos objectifs financiers. Et seulement après, on voit la partie valeur, comment est-ce qu'on peut décorréler son temps de ce qu'on facture, etc. Mais avant d'aller chercher les sujets de valeur, machin, qui sont assez brouillons et souvent, on ne sait pas trop par quel bout prendre le truc, les 3 premières choses à faire, c'est le marché, votre structure de coût et vos objectifs financiers. Donc, on va voir comment travailler chaque point. Le marché, concrètement, comment ça marche? L'idée, c'est de se dire, comment se situent quand même vos concurrents? Même si tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas parce qu'il y a une concurrence X que vous n'êtes pas capable de facturer Y, mais c'est quand même bien d'avoir conscience de qu'est-ce que facture en moyenne le marché. Donc en gros, c'est quels sont les prix qui sont pratiqués sur le marché aujourd'hui. Pour ça, il y a plein de manières de faire. Il y a des manières qui sont très faciles. L'idée, c'est pas d'y passer 105 ans. Aujourd'hui, il y a plein de baromètres qui existent. Il y a des études sur le freelancing qui existent. L'idée, c'est d'aller aussi explorer différents paramètres. Par exemple, je peux vous partager quelques infos que moi j'avais récupérées. Par exemple, une graphiste, entre 0 et 2 ans d'expérience, un TJM moyen de 260 euros. Entre 3 et 7 ans d'expérience, 323 euros. Entre 8 et 15 ans d'expérience, 412 euros. Un développeur, c'est 300 euros entre 0 et 2 ans. 422 euros entre 3 et 7 ans. Et plus de 7 ans d'expérience, c'est entre 570 et 700 euros. Je vous ai pris des exemples, mais en gros, ça, c'est des infos qui sont facilement trouvables, c'est des baromètres. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est des moyennes, ça dépend, est-ce que je suis à Paris, est-ce que je ne suis pas à Paris, qui est référencé sur ces baromètres-là, machin, etc. Encore une fois, ça vous donne des tendances. Okay, mais ça, c'est facile à faire. Autre point, aller choper sur Malte. En fait, Malte, l'avantage de cette plateforme-là par rapport à toutes les autres, c'est que, un, c'est une plateforme ouverte, c'est-à-dire que vous êtes capable, comme un Airbnb, d'aller explorer les profils, de voir un peu les tendances marché, etc. Et deux, il y a tellement de volume que, en fait, certes, les prix sont parfois un peu déconnants et on passe du simple au double, mais en fait, l'effet de masse vous donne une tendance globale. Un peu comme sur Airbnb, où vous dites, en fait, il y a tous les prix, mais globalement, vous voyez un peu une tendance. Si vous voulez aller, je sais pas, à Lisbonne, vous commencez à comprendre que la tendance, elle est plutôt entre X et Y euros la nuit en Airbnb. Donc, c'est un peu le même principe sur les prestations de freelance. Et donc, ça ne vous coûte rien de vous créer un compte client sur Malte. Non pas un compte freelance, mais un compte client, comme si vous achetiez de la prestation freelance. Dernier point, et moi, c'est un truc que j'ai fait. Alors, j'ai l'avantage d'avoir travaillé pour une plateforme de freelance, donc j'avais accès à quand même pas mal de chiffres là-dessus, à l'époque où j'étais encore dans cette boîte-là. Et donc, je ne pourrais pas vous les partager par souci de confidentialité, mais globalement, vous pourriez faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire me faire passer pour un client et récupérer parfois des propositions commerciales ou des pricing. Parce que vous seriez tellement surpris du nombre de personnes qui ne fait pas de proposition commerciale, qui ne fait pas d'exploration du besoin, qui ne propose pas d'appel et qui juste propose des prix comme ça à la volée ou des fourchettes de prix. Et donc, en fait, rien ne vous empêche d'aller sur Malte, de vous créer un compte client et de contacter 10 freelances et de leur demander, voilà mon brief, Est-ce que tu peux me donner une estimation de tes prix, etc. Et donc ça, ça peut vous donner des informations. Ça vous permet aussi de voir comment est-ce que d'autres freelances qui ont plus ou moins le même niveau d'expérience que vous, par exemple, et qui sont plus ou moins sur les mêmes sujets que vous, se vendent. Quels sont les arguments, comment est-ce qu'ils, c'est quoi les questions qu'ils posent, etc. Vous allez être surpris. Hein. La plupart d'entre eux font pas tout ce travail-là, et donc ça vous permet, un, de prendre confiance en vous, et deux, de vous dire, OK, voilà comment est-ce que le marché se vend aujourd'hui, comment est-ce que moi je peux faire vachement différemment, je peux quand même rassurer le client, etc., etc. Donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, votre structure de coût. Là, c'est pas très compliqué, mais combien d'entre vous qui écoutez le podcast ont un budget et un suivi de budget mensuel? Combien d'entre vous sont capables de me dire, bah oui, en moyenne, sur mon entreprise, je dois sortir, je sais pas, 3000 euros parce que dans mes dépenses courantes, mes dépenses professionnelles, j'ai des dépenses personnelles, j'ai des investissements à faire, etc., pour préparer ma retraite, etc. Combien d'entre vous sont vraiment capables, à plus ou moins 100, 150 euros, de me dire, bah, il faut que je me sorte un minimum de X, enfin, mon activité me coûte X milliers d'euros par mois. Donc là aussi, je sais que c'est pas le plus fun, mais en fait, créez-vous des budgets. Créez-vous des budgets. Moi, j'ai plein de templates. J'ai des calculateurs. J'ai des trackers de marge aussi sur mes missions, etc. Donc ça, c'est extrêmement important que vous puissiez avoir des outils à votre disposition pour comprendre où sont vos postes de dépenses, suivre votre budget versus vos revenus et faire aussi une rapide analyse annuelle et mensuelle de où va votre budget, votre épargne, vos investissements, est-ce que vous êtes dans les rails, etc., etc. Parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas capable de piloter ça, à quel moment vous êtes capable de vous dire, bah là, il faut absolument que j'augmente mes prix? Oui, j'augmente mes prix parce qu'on me l'a dit sur LinkedIn ou dans un podcast Tribu Indé où Alexis nous a dit, il faut vraiment augmenter vos prix. Ou bien il y a un truc de manière très consciente où, bah, en fait, pour atteindre mes objectifs financiers, pour atteindre mon seuil de rentabilité avec, parce que j'ai fait pas mal d'investissements ces derniers mois, il faut absolument que je rentre X milliers d'euros le mois prochain. Et enfin, donc, on a vu le marché, votre structure de coûts et vos objectifs financiers. Chose très importante, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas freelance pour impressionner votre voisin. On n'en a rien à carrer. Okay ? Si votre voisin facture 3 fois plus cher que vous, bah, c'est son problème, c'est très bien pour lui. Mais si vous n'avez pas nécessairement besoin de facturer 3 fois plus cher que ce que vous faites aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez besoin de le faire ? N'oubliez pas un truc, plus vous facturez cher, plus votre taux de conversion client bah, va diminuer. Parce que bah, vous allez, c'est comme le luxe, hein, vous faites beaucoup moins de volume. Et plus le niveau d'exigence de vos clients va être extrêmement élevé. Et donc parfois, l'équation et la question à se poser, c'est est-ce que je suis OK d'augmenter de 40% mes prix, mais d'avoir des clients qui sont beaucoup plus tatillons, qui vont être beaucoup plus exigeants, etc. etc. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, en fait, vous êtes confortable dans ce que vous faites, votre rentabilité est bonne, et surtout, le prix que vous facturez aujourd'hui correspond à vos objectifs financiers. Et dans ce cas-là, bah, en fait, continuez comme ça. Continuez comme ça, allez chercher des nouveaux clients, rodez encore votre méthode et vous ne mettez pas à risque à vouloir tenter de facturer 3 fois plus cher alors que finalement votre marché n'est pas prêt pour le faire. Et donc là, pareil, vos objectifs financiers, l'idée c'est de pouvoir valider si le marché sur lequel vous êtes et votre structure de coûts est cohérente par rapport à vos ambitions financières. Je vous prends un exemple. Si vous êtes graphiste, comme on a vu tout à l'heure, et je ne sais pas, vous êtes sur un marché où vous ciblez des indépendants et que vous comptez faire 100 000 euros par an, je vous dis tout de suite que vous n'êtes pas sur le bon marché. Et donc, la réalité entre le marché sur lequel vous êtes, votre structure de coûts et vos objectifs financiers, il y a un truc qui ne va pas marcher. Parce que vous n'arriverez jamais à vendre des journées à 700, 800 euros par mois, par jour, pardon, à des indépendants qui font même pas 30 000 euros de CA. Donc là encore, extrêmement important de construire proprement vos objectifs financiers. Et pas seulement de se dire, bah, en fait, moi, mon objectif, c'est de faire 100 000 euros à l'année. C'est de se dire, OK, mon objectif, c'est de faire 100 000 euros à l'année. C'est quoi mon plan? C'est quoi les étapes et les checkpoints pour lesquels je veux passer? OK, je voudrais vendre X prestations. Combien est-ce que je suis capable de vendre de prestations par mois? Si j'en vends X par mois, ça veut dire que ramené à la journée, ça revient à, 300 euros ma journée. Je ne vais pas pouvoir travailler 20 jours par mois parce que bah, j'ai tout l'aspect marketing, commercial à faire et donc ça, je ne peux pas le facturer. Donc globalement, vous allez en général facturer entre 12 et 14, 15 jours grand max par mois à vos clients. c'est votre taux de, moi, ce que j'appelle le taux d'occupation. Quand j'étais en conseil, on appelait ça le taux d'occupation des consultants. C'est que globalement, les consultants sont rarement à 100% en taux d'occupation chez le client. Il y a toujours un petit battement parce qu'il y a toujours des trucs à faire, il fallait revenir au cab, etc. etc. Et donc, quand vous faites tout ça, c'est-à-dire vos objectifs mensuels, les taxes, je sais pas, vous êtes à 25% si vous êtes en auto-entreprise, peu importe le pourcentage en fonction de votre statut, vos coûts mensuels, le nombre de jours que vous comptez facturer par mois, le nombre de jours que vous allez pouvoir éventuellement, que vous avez envie de prendre dans l'année, etc. Et bien là, vous avez un TJM que j'appelle un TJM théorique. C'est-à-dire que par rapport à vos objectifs financiers à l'année, vous venez de faire un TJM théorique. Donc là, pareil, bon, il se trouve que moi, avec Tribu 1D, notamment dans le bootcamp, on a développé avec Lucie, qui est une alumni, une sorte de calcul de TJM amélioré qui permet, de, en rentrant plein de paramètres, de se dire bah voilà, hop, paf, j'ai mon TJM théorique qui apparaît. Mais vous pouvez facilement le construire aussi de votre côté là-dessus. Mais ça vous donne déjà un point d'ancrage de vous dire ok, mon TGM théorique, c'est celui-ci. Aujourd'hui, où est-ce que je suis? Est-ce que je suis loin? Est-ce que je suis au-dessus et donc c'est très bien? Est-ce que je suis pas loin et donc j'ai quelques petits ajustements à faire? Ça, c'est extrêmement important. Donc, à ce stade-là, vous avez un TGM théorique. N'oubliez pas un truc, c'est que le TGM, donc ce que vous facturez à la journée, c'est un outil de référence pour vous. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre client n'a pas forcément besoin de connaître votre TGM. Mais la réalité, c'est que pour vous évaluer la pertinence d'une mission et la marge que vous faites sur une mission, ben en fait, c'est, enfin moi, je n'ai pas d'autre moyen que de savoir combien de temps j'ai passé sur la mission et le prix que j'ai facturé. Et donc, en fait, le fait de toujours ramener votre mission, même si vous facturez au livrable, à un TJM, ça permet de suivre votre cohérence entre votre facturation par rapport à vos objectifs financiers. Je vous prends un exemple. Si vous devez facturer dans votre TJM théorique, je sais pas, 400 euros par jour, okay, c'est-à-dire que vous devez facturer le temps que vous passez en clientèle, vous devez le facturer 400 euros par jour. Si vous facturez un projet de 2000 euros, sur le papier, vous dites, bah, y a quand même 2000 euros qui rentrent sur le compte, c'est cool. Mais si ces 2000 euros-là, eh bien, vous travaillez 5 jours dessus, et bah, ramené à la journée, on n'est plus du tout dans les clous. Okay, si vous travaillez... Alors 5 jours, ça fait 2000 euros, ça fait 400, donc le calcul n'est pas très bon. Mais par exemple, vous mettez 6 jours dessus. Bah, vous voyez que vous êtes un peu en dessous de ce que vous avez prévu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, sur une prochaine mission, vous allez devoir ajuster. Donc vous voyez, ça vous permet, en fait, c'est vraiment un outil de pilotage interne, c'est-à-dire que votre client n'est pas forcément au courant du temps que vous passez. Et vous, ça vous permet de réajuster en mode, ok, donc la prochaine mission, il va falloir que j'augmente de 5-6% mon TJM. Il va falloir que je réadapte mes prix en fonction du temps que je passe, etc. Parce que, en fait, oui, sur le papier, il y a 2000 euros qui rentrent sur le compte, mais la réalité, c'est que j'y ai quand même passé beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Donc, le TGM, c'est toujours un bon point de départ que vous l'annoncez ou non à votre client. Maintenant, il y a différentes méthodes de pricing. Personnellement, moi, j'en ai testé 3. Il y a le pricing au temps passé. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Voilà, monsieur client, je compte passer 3 jours dessus. Mon TGM de référence est à 300 euros. La mission va vous coûter 900 euros. Donc là, c'est ce qu'on appelle un prix en régie. Et donc là, vous avez une obligation de moyens, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre sur les 3 jours que vous proposez à votre client pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé ensemble. Objectif de moyens, prix en régie, pricing au temps passé. La deuxième méthode de pricing, c'est un pricing au livrable. C'est ce qu'on appelle le prix au forfait. On s'engage sur un livrable et donc là, vous avez une obligation de résultat, non pas sur le résultat espéré, escompté de votre mission, mais sur le résultat sur lequel vous engagez dans le devis ou dans la proposition commerciale. Je m'engage à vous livrer un document de positionnement avec une séquence de email plus des consignes pour revoir la page d'accueil de votre site internet. Eh bien, mon client m'attend sur ces livrables-là. Et donc, j'ai un engagement et une obligation des résultats à lui livrer les documents sur lesquels je me suis engagé. Donc, ça, c'est le pricing au livrable ou pricing au forfait. Ça dépend de la terminologie. Et enfin, la dernière méthode que moi j'ai testée, c'est un pricing à la performance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, en fonction des résultats de votre travail et les résultats que ça va générer chez votre client, vous allez prendre un pourcentage de ce que vous avez pu générer. Donc généralement, c'est possible de facturer à la performance quand votre mission est liée plus ou moins proche du chiffre d'affaires que va générer votre mission. Chiffre d'affaires, augmentation du nombre de clients, augmentation du nombre de personnes qui arrivent sur une liste email, etc. En gros, il faut que ça soit corrélé à des données qui sont très analytiques, sur lesquelles on peut... Il n'y a pas d'analyse possible de prise de considération intangible. De dire, bah non, mais je pense qu'on y est, mais pas encore. Non, en fait, c'est soit on a atteint l'objectif, soit on ne l'a pas atteint de manière très, très analytique. Et donc ça marche bien. Par contre, c'est une prise de risque beaucoup plus élevée parce que vous partagez le risque avec votre client. Globalement, vous avez beau délivrer ce que vous avez fait de meilleur, bah, si vous n'atteignez pas les objectifs, vous n'êtes pas payé à la juste valeur par rapport à ce que vous avez livré parce que eh bien, vous avez décidé et accepté de partager le risque en étant facturé à la performance. Alors moi, maintenant, je facture aussi à la performance parce que je considère que vous êtes capable de facturer à la performance quand vous avez suffisamment de recul sur votre compétence et vous savez déjà ce que vous avez pu proposer comme résultat à d'anciens clients. Et donc, vous êtes suffisamment confiant dans le fait que il y a quand même assez peu de risques que vous n'arriviez pas à atteindre les objectifs que vous êtes fixés avec votre client. Mais donc ça demande forcément un niveau de maturité, un niveau d'expérience qui est plus élevé que juste avoir fait 3-4 missions sur un sujet. Moi, ce que je fais, c'est que je fais souvent un mix entre pricing au livrable et pricing à la performance. Donc, par exemple, plutôt que de prendre 15, bah, je vais proposer à mon client de prendre 10 et d'avoir un pricing à la performance qui, si on atteint l'objectif, va me permettre de toucher 7 de plus. Donc sur le papier, bah parce que je prends un risque, bah en fait, à livrable égal, je prends plus d'argent, mais c'est moins risqué pour le client parce que si ça ne fonctionne pas, le client aura dépensé que 10 au lieu de 15 qui était prévu si j'avais facturé seulement livrable. Et de mon côté, bah pour le même niveau d'effort, bah en fait, je peux passer de 15 à 17. J'espère que c'est clair, c'est pas facile à l'oral de vous expliquer ça, mais moi j'aime bien faire du coup un pricing à livrable, un pricing fixe, donc au livrable, et puis un pricing à la performance. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est de s'entendre sur qu'est-ce qu'on va évaluer. Quel est l'indicateur bien précis qu'on va évaluer? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à date, on prend aussi connaissance de où est-ce qu'on part. D'où est-ce qu'on part? Quels sont les chiffres à date? Et où est-ce qu'on veut aller? Et comment est-ce qu'on suit ces chiffres-là? Et comment est-ce que moi, en tant que freelance, je peux avoir un accès direct à cette information-là sans passer par le client? Ça veut dire quoi sans passer par le client? Ça veut dire bah, je fais confiance à mon client, mais moi, j'ai besoin d'aller vérifier l'information à la source. Donc globalement, il y a plein de points positifs et points négatifs sur ces différents pricing. Le pricing au temps passé, bah, le point positif, c'est que prenez pas trop de risques. C'est-à-dire, bah, plus vous travaillez, si la mission déborde, bah, en fait, votre client remet un petit peu au pot pour finir la mission. En revanche, bah, vous êtes aussi pénalisé pour votre efficacité. C'est-à-dire que bah, finalement, si vous passez qu'une journée au lieu de trois, bah, votre client vous paye une journée au lieu de trois. Donc ça peut être très cool parce que ça peut vous permettre d'aller travailler sur d'autres missions chez ce même client-là. Mais effectivement, bah, vous êtes pénalisé pour votre capacité à résoudre rapidement des problématiques. Le pricing livrable, je trouve que c'est le bon modèle parce que vous engagez sur un livrable et donc ce qui se passe en arrière-cuisine, ça vous regarde. C'est un peu comme quand vous allez au restaurant. Moi, je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe en cuisine, qu'il soit deux personnes ou qu'il soit 25 et que il y ait quatre cuisines et que ça soit la course partout, moi je m'en fiche, ce que je veux c'est que comme mon plat arrive, bah, il est soigné, il est beau, il est bon, c'est chaud, etc. Ce qui se passe et tout le process qui a été fait, ça m'intéresse un peu moins parce que moi je paye pour bien manger, pas forcément pour qu'il y ait trois personnes exclusivement qui travaillent sur mon assiette en arrière-cuisine. Donc c'est un peu le même principe sur votre prestation de service. Donc maintenant qu'on a notre TJM référence. Maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes manières de pricer, je vous propose trois stratégies. C'est trois stratégies dont je parle régulièrement dans mes contenus de formation, sur lesquelles on va bien au-delà de ce que je vais vous dire, mais au moins vous les avez en tête parce qu'elles sont intéressantes. La première stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie caméléon. L'idée, c'est on pénètre le marché. La deuxième stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie artisan. L'idée, c'est comme un artisan, quel que soit le temps passé, ce que vous voulez, vous avez commandé à votre artisan la restauration d'une chaise, d'un machin, peu importe le temps qui va y passer, vous, ce que vous voulez, c'est que quand vous allez revoir cet artisan-là, vous avez votre chaise qui est restaurée. Et enfin, on a la stratégie premium, où là, on va facturer à la valeur. Et donc, c'est là où on rentre plutôt sur des prix au livrable et des prix à la performance. Donc, la stratégie caméléon, l'idée, c'est de pas faire l'américain. C'est de se dire, bah, en fait, je comprends le marché et donc aujourd'hui, j'ai peu d'expérience, j'ai peu de confiance en moi, j'ai peu de crédibilité. Souvenez-vous, hein, les deux points qu'on a vus avant. Et donc là, il faut que je développe ma confiance en moi OK, moi, Alexis, je suis capable de délivrer de la prestation sur lesquelles mes clients sont contents et plébiscitent mon travail. Et puis, je commence à être de plus en plus crédible. On me recommande pour mon travail. Je partage ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et je commence à intellectualiser une démarche et une méthodologie à chaque nouvelle mission que je fais avec mes clients. Donc là, l'idée, c'est le client est plus ou moins habitué à payer un type de pricing. L'idée, c'est de dire, votre négociation client, elle doit plus se faire sur le prix. Et donc, vous êtes souvent sur un temps passé et vous êtes dans une moyenne du marché. C'est pour ça qu'on est sur une méthode de pénétration d'un marché. Le but du jeu, ce n'est pas nécessairement de maximiser votre chiffre d'affaires à ce stade-là, mais c'est de maximiser le nombre de références clients qui vont vous permettre demain d'avoir une stratégie beaucoup plus artisanale. Ensuite, on a la stratégie artisan. Donc là, on facture généralement livrable. Et donc, si on reprend les ingrédients qui nous permettent de mettre notre prix, dans cette stratégie artisan, on a le coût structurel et notre TJM plancher, le TJM théorique dont je vous parlais tout à l'heure. Et à cela, on va rajouter la marge qu'on a envie d'aller chercher pour aller atteindre notre facturation et nos objectifs financiers. Donc là encore, pour passer de cette stratégie caménon à cette stratégie artisan, vous devez avoir un minimum de missions communes que vous avez déjà réalisées pour déjà savoir le temps que vous passez sur les missions, d'où le fait de traquer son temps, de comprendre et de traquer la marge que vous faites sur chacun des projets. Parce qu'en fait, si vous arrivez sur une stratégie artisan sans savoir plus ou moins sur la mission A, je sais que j'y passe entre 10 et 15 heures, sur la mission B, je sais que je vais plutôt y passer entre 3 et 5 heures. Si vous n'êtes pas capable, sur vos différentes offres de service, de savoir plus ou moins aller à 20% près le temps que vous allez passer sur ces missions-là, en fait, vous allez vous faire bouffer parce que vous allez forcément sous-pricer ce que vous êtes en train de facturer et vous allez passer 10 fois plus de temps. Et enfin, on a la stratégie premium où là, l'idée, c'est d'aller facturer à la valeur. Alors, vous allez me dire, OK, Alexis, t'es bien gentil. Tout le monde nous raconte qu'il faut facturer à la valeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, facturer à la valeur? Alors moi, j'ai ma petite définition à moi. D'un point de vue prestation de service, ça veut dire quoi, facturer à la valeur? Je vous partage rapidement cette équation. Donc, l'équation de la valeur, c'est quoi? C'est le résultat de votre intervention, c'est-à-dire les bénéfices de votre intervention chez votre client, multiplié par les chances de succès, donc les chances d'arriver à ce résultat-là. Je vous le redis, valeur égale résultat de votre intervention multiplié par les chances de succès. Donc ça veut dire quoi sur les résultats? Donc en fait, pour facturer à la valeur, vous avez deux paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Les résultats de votre intervention, donc augmenter le résultat de votre intervention, ou bien augmenter les chances de succès. Donc si on prend les résultats de votre mission et de votre intervention, la question à vous poser, c'est, et vous seul avez la réponse à ça, à quel point est-ce que vous êtes capable de démontrer un avant, un prêt? À quel point est-ce que vous êtes capable de démontrer que avant votre intervention, voilà ce qui se passait, voilà comment ça se passait, voilà les problématiques qu'il y avait, etc. Et une fois que vous avez terminé cette mission-là, voici tout ce que ça a changé. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile quand vous avez des chiffres à montrer, des résultats chiffrés, des résultats analytiques, mais ça peut aussi très bien être des bénéfices émotionnels. D'où l'importance de faire parler votre client. D'où l'importance de, à la fin de chaque mission, de prendre le temps avec le client, de lui demander qu'est-ce que tu en as pensé, comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce qu'en a pensé l'équipe, en quoi ce qu'on a fait ensemble va vous permettre d'aller chercher X, Y, Z, en quoi la mission que j'ai réalisée remplit les objectifs que vous étiez fixés, etc. etc. Donc vous comprenez bien que vous ne pouvez pas débarquer en freelancing et tout de suite partir sur une stratégie premium parce que vous n'avez aucun recul client. Vous ne savez pas concrètement, vous avez bien sûr une idée, mais seul votre client est capable de savoir la valeur que vous lui avez apportée ou pas. Parce qu'encore une fois, ça touche directement son business et pas forcément le vôtre. Vous n'êtes qu'un mercenaire qui arrive à un instant T pour accompagner un client et repartir au moment où le client n'a plus besoin de vous pour aller voguer à d'autres, sur d'autres projets. Donc ça, c'est extrêmement important d'être capable de comprendre vraiment le retour sur investissement que votre client va venir chercher en travaillant avec vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi être capable et d'avoir une maturité d'esprit pour se dire c'est quoi la photographie à l'instant T, au moment où je discute avec mon prospect sur un appel, sur une proposition commerciale, c'est quoi la photographie que je décide de prendre pour qu'on puisse se baser sur cette photographie-là une fois que la mission est terminée. L'autre pan de cette équation-là, c'est les chances de succès. Et donc là, votre objectif, c'est d'augmenter la confiance que votre client va placer dans votre prestation. En gros, à quel point est-ce que vous êtes en train de rassurer le client sur « vous inquiétez pas, en fait, ça va très bien se passer ». Et donc, les chances du succès, elles ne sont pas de 0,5, mais elles sont de 3 parce qu'en fait, j'ai exactement déjà fait ça. Je sais exactement par quel chemin on va devoir passer pour y arriver. Et donc, plus vous augmentez vos chances de succès, meilleure sera la valeur de votre offre. Et donc là, c'est quoi les arguments pour aller travailler votre chance de succès ? À quel point est-ce que votre méthodologie de travail, elle est claire ? C'est-à-dire que quand votre client vous demande « Ok, est-ce que tu peux m'expliquer, Alexis, comment est-ce que ça se passe une mission avec toi ?» À quel point est-ce que vous êtes extrêmement sûr de vous sur « Bah voilà, on étape une, voilà l'objectif de cette première étape, voilà les moyens qui vont permettre d'aller atteindre cet objectif-là, ce sous-objectif-là, voilà les livrables que je te livre. » Une fois qu'on a terminé cette première phase, on va passer à la deuxième phase. Cette deuxième phase, elle se déroule en deux temps. Elle va prendre plus ou moins 2 semaines. Sur ces 2 semaines-là, on va d'abord avoir une première partie où on va aller travailler tel et tel sujet. Pourquoi est-ce qu'on travaille tel et tel sujet pour telle et telle raison, etc., etc. Et vous comprenez que ça, ça se travaille bien en amont et ce n'est pas au moment où on est sur l'appel qu'il faut improviser. Deuxième argument, une fois que vous avez parlé de méthodo, c'est quels sont les résultats précédents que vous êtes capable de démontrer. Des résultats chiffrés, mais aussi des résultats émotionnels. Troisième élément, quelle est votre capacité à rassurer le client sur le fait que vous êtes avec lui et que vous n'allez pas le lâcher quoi qu'il arrive. Et donc, par exemple, là, c'est là où on tombe sur des sujets parfois un peu irrationnels. À quel point, quand vous êtes face à votre client sur un appel de prospection, par exemple, vous êtes confiant, vous prenez le lead sur l'appel, vous êtes capable d'amener votre client là où vous avez envie de l'amener et vous êtes capable de le rassurer, de répondre correctement à ses objections, d'être capable de bien reformuler son besoin, de bien comprendre ce besoin et d'être suffisamment clair et explicite au moment de parler de ce que vous proposez, comment vous le faites, avec qui vous avez déjà travaillé, comment est-ce que ça s'est passé et quel prix ça va coûter. Donc vous voyez que chaque stratégie, encore une fois, a ses avantages, a ses inconvénients, sont plus ou moins faciles à vendre. Forcément, la stratégie caméléon est plus facile à vendre que la stratégie premium, mais stratégie caméléon, vous êtes votre facturation est directement corrélée à ce que à votre temps, là où la stratégie premium, votre facturation est directement corrélée à la valeur et non pas au temps que vous passez. Si en une heure de temps vous êtes capable de partager de la valeur à votre client, en fait, quel que soit le temps que vous avez passé, c'est-à-dire une heure, vous êtes capable de facturer beaucoup plus cher. Et donc c'est là où on commence à avoir un début de scale, c'est-à-dire un début de décorrélation entre le temps que je devrais facturer a priori sur cette mission-là et le temps réel que j'ai vraiment facturé et tout le temps qui me reste pour aller chercher, par exemple, d'autres missions derrière. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette début d'introduction qui n'est quand même pas forcément qu'une seule intro parce qu'on a quand même pas mal parlé. Ce que je voulais vous dire peut-être en conclusion de cette partie-là, c'est prenez votre temps. J'insiste là-dessus, prenez votre temps et surtout, n'oubliez pas TJM théorique. Objectif financier. Sur quel marché est-ce que vous êtes ? Quel est le niveau de maturité du marché ? Quel est le niveau de maturité de vos clients sur ces sujets-là ? Et où est-ce que vous vous situez à date en termes de stratégie ? Est-ce que vous êtes plutôt encore sur une stratégie de pénétration marché où vous êtes dans la moyenne ? Est-ce que vous commencez à aller sur une stratégie plutôt d'artisanat où vous sortez un peu des cases pour aller chercher un peu de l'excellence ? Ou bien vous êtes déjà sur une stratégie premium et là, j'ai plus grand-chose à vous apprendre. Mais encore une fois, ce qui est très important, c'est prenez votre temps. Moi, ce que je dis toujours sur les sujets de pricing, c'est vous devez d'abord être à l'aise avec le prix que vous posez vous. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise vous-même avec le prix que vous êtes en train d'annoncer et que vous le faites juste parce qu'on vous a dit que en fait, vous n'êtes pas assez cher et que facturer 3 fois plus cher et ça va fonctionner, en fait, à la moindre objection, à la moindre réticence client, en fait, vous allez perdre totalement vos moyens. Et vous allez être incapable de convaincre votre client parce que vous-même, la réalité, c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas super à l'aise avec ce prix. Et donc, vous n'allez pas le défendre comme un dingue parce que vous savez que ça vaut ce prix-là, parce que vous avez déjà l'expérience, vous avez déjà démontré que ça a fonctionné, vous avez une méthodologie qui est hyper carrée et que, bien évidemment, ils peuvent travailler avec quelqu'un qui est beaucoup plus junior, ça va coûter moins cher, mais ça sera aussi moins qualitatif. Donc, n'oubliez pas, souvenez-vous, confiance en vous et crédibilité, c'est 2 sujets qui vous permettent d'augmenter progressivement vos prix. La crédibilité, facteur externe, confiance en soi, facteur interne. Si vous n'avez pas réglé votre confiance en vous, en fait, c'est difficile d'augmenter vos prix et c'est surtout très, très inconfortable pour vous. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le mémo de la semaine. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de nous arrêter là pour cet épisode. On est arrivé au bout de cet épisode ensemble. J'espère qu'il vous a donné matière à réflexion sur la partie pricing. Bien évidemment, j'ai encore plein de choses à dire. Si ça vous intéresse d'aller creuser, si vous avez des questions spécifiques sur lesquelles on peut creuser, n'hésitez pas à me poser vos questions. On peut même se faire peut-être un épisode un peu FAQ. Donc, posez-moi toutes vos questions sur le prix, les pricing, les stratégies, ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, on essaiera de se faire un petit épisode un peu questions-réponses qui peut être très, très cool. Encore une fois, si vous appréciez mon travail et ce genre d'épisode, faites-moi vos retours sur cet épisode-là avec vos questions, ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vraiment, j'insiste, continuez à me faire vos retours, surtout sur les épisodes mémo, c'est hyper important. Je suis tout seul à parler, ce n'est pas toujours simple d'être devant son ordi et de parler pendant plus d'une heure seul. Mais c'est un, ça me fait super plaisir. Et deux, en vrai, ça me permet de corriger parfois le tir, d'être plus clair aussi sur ce que je peux proposer. Et donc, en fait, vos retours, c'est pas juste pour me faire kiffer, ça me permet vraiment de mieux travailler, d'améliorer ce que je fais, etc. etc. Donc, s'il vous plaît, osez le faire à toutes ces personnes qui font partie de la majorité silencieuse. Prenez le temps, ça vous prend 30 secondes. Envoyez-moi un petit message sur LinkedIn, sur Instagram, par mail, ce que vous voulez. C'est toujours hyper sympa et n'hésitez pas et n'oubliez pas de noter l'épisode sur Spotify ou Apple Podcast. On est bientôt aux 200 notes sur Spotify, donc c'est cool. On a pris quasiment 50 notes depuis que je vous rabâche à la fin de chaque épisode de noter le podcast parce que c'est très important. Donc encore une fois, ça ne vous prend pas beaucoup de temps pour un contenu que je vous partage gratuitement chaque semaine. Merci d'avance. C'est tout pour moi. Je vous laisse. Je dois rendre ma chambre d'hôtel. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.